Bonjour à vous et bienvenue dans ce 26e épisode de Flux ERSS. Aujourd'hui nous allons faire, alors ce ne sera pas exhaustif bien évidemment, nous allons faire un petit état des lieux et des perspectives sur la transition énergétique. Nous allons commencer tout d'abord par un petit export audio d'une vidéo du canal Xerfi que je vous laisse écouter tout de suite et maintenant. USSR.
La prise de conscience de l'urgence climatique est générale. Limiter le réchauffement à moins de 2 degrés est devenu le point de ralliement de la planète. Et le simple énoncé de cet objectif suffit à mesurer la radicalité du défi et l'incroyable inconséquence de nos stratégies à petits pas. Pour avoir 50% de chance de tenir 1,5 degré de réchauffement, il reste 8 ans d'émission. Cet objectif est bien sûr déjà compromis, on le sait. Nous n'avons même pas opéré le début de la descente et les émissions de gaz à effet de serre ont quasiment regagné en 2021 le terrain perdu avec la crise sanitaire. Elles culminent encore à moins de 1% de leur record absolu de 2019. Limiter le réchauffement à 1,7 degré ouvre un horizon de 20 ans, objectif plié lui aussi. C'est donc l'horizon de 30 ans qui fédère aujourd'hui. Celui qui permettrait en théorie de limiter le réchauffement à 2 degrés. Cela veut dire, à horizon de 3 décennies, de parvenir à la neutralité carbone et donc à minima d'éradiquer les énergies fossiles et de ne garder qu'un reliquat sur lequel les pays sont en mesure d'organiser une capture efficace des émissions, de bâtir un mix électrique entièrement décarboné à base de renouvelables ou à défaut de nucléaire, de remplacer tout le parc des moteurs atmosphériques et du chauffage au fioul, de révolutionner les process de la sidérurgie responsable de 7 à 9% des émissions mondiales et des cimentiers responsables de 6% des émissions. Sans cela, il faut faire une croix sur le climat. Les faits sont têtus, le chantier de l'électricité étant névralgique. On peut faire toute l'isolation thermique possible, convertir tout le parc automobile, faire basculer l'aéronautique sur l'hydrogène, source qui demande une quantité d'énergie considérable pour être produite, la neutralité carbone sera inatteignable tant que l'électricité ne sera pas entièrement décarbonée. Nos objectifs du climat sont reliés par des « et non des « ou ». Au regard de cela, on mesure le chemin à accomplir et le caractère encore balbutiant des grands messes internationales. La COP26 en est symptomatique. Grand catalogue d'intentions qui n'engage pourtant que ceux qui y croient, puisqu'elles ne sont pas contraignantes, ces conclusions nous permettent de mesurer à quel point nous sommes loin et même très loin des clous en matière de climat. Si toutes les contributions de la COP26 étaient réalisées, les émissions mondiales dépasseraient en 2030 d'un peu plus de 10% leur niveau de 2010, alors qu'il faudrait les réduire de 45% pour être sur une trajectoire limitant le réchauffement global à 2 degrés. 2. Nous en sommes encore au stade où évoquer la sortie des énergies fossiles fait figure d'exploit diplomatique. Encore, cette expression n'est-elle réservée qu'au charbon ? Et ni la Chine, ni l'Inde, ni l'Indonésie, ni la Turquie, qui prévoient de construire nombre de nouvelles centrales dans les prochaines années, ni les États-Unis n'ont souscrit explicitement à cet objectif. Quant aux autres sources fossiles, le seul engagement qui est pris, c'est de ne plus participer à l'extension des capacités à l'étranger. On est bien loin d'un repli de la voilure. Enfin, en matière de transfert nord-sud, de permis et de financement, c'est l'inertie qui l'emporte encore. Sur les incontournables de la politique climatique, nous en sommes donc encore à mener une guerre de position et à accoucher d'avancées millimétriques, COP après COP. Or, il faudrait pourtant que dès à présent, toutes les économies du monde soient à pied d'œuvre, pleinement engagées dans cette grande transformation. Au premier rang desquels, la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, responsables à eux seuls de 55% des émissions mondiales. Avec la conscience que chaque retard a cela de particulier, il produit des effets non réversibles. Il n'y aura pas de cession de rattrapage. À la vacuité de l'action se substitue l'inflation des discours, le fameux blabla, les slogans, les labels verts. La novlangue écologique pénètre toutes les dimensions de la politique et de la société. Responsabilisation du consommateur, RSE pour les entreprises, initiatives locales, Greenfin qui prétendent transfigurer le capitalisme, de tout petits pas, là encore, et beaucoup de bruit faisant diversion, pendant que la caravane du capitalisme carboné poursuit tranquillement son cours.
Nous venons d'écouter une vidéo qui s'intitule « La guerre des tranchées climatiques et énergétiques ». Elle est sortie le 24 novembre 2021. Et tout cela est produit par le canal Xerfi, qui est un institut d'études privées, qui n'est pas d'obédience, on va dire, ultra-libérale, ni, comment dire, complètement dans une écologie décroissante. C'est quelque chose, voilà, ils font tout simplement des études de business d'entreprise. Ils ont fait, de temps en temps, je vais jeter un oeil, bien évidemment, il faut payer pour accéder à ces dossiers. C'est pas des petits dossiers, d'ailleurs, c'est des dossiers de genre 300, 400 pages, c'est pas... C'est des vraies études. Ça m'a l'air d'être des vraies études, après j'ai jamais pu me pencher sur un de leurs dossiers en tant que tel, mais c'est un peu dommage. Mais voilà, ils font des dossiers sur l'immobilier, ils font des dossiers, bon, voilà, c'est tout simplement pour de la stratégie d'entreprise, tout simplement. Donc on peut pas dire qu'ils soient vraiment en rupture par rapport à l'idéologie actuelle, hein. Voilà, ils sont pas là pour ripolliner le monde, hein. Eux ils ne font que de la mise en place stratégique, etc. Et d'ailleurs la personne qui nous a énoncé cela, Olivier Passé, est un économiste et c'est le directeur de synthèse donc économique chez Xerfi. Il sort de Paris, Sorbonne, et il a aussi eu l'occasion de travailler dans des cabinets ministériels, pour même au commissariat général du plan. Pour résumer son intervenant et son institut, on pourrait dire que ce ne sont pas des agitateurs de passions tristes, j'ai envie de dire. Ils ne sont pas là pour, ils sont justement là pour faire preuve justement de stratégie, de réflexion, pour voir à un peu plus long terme, disons-nous. Après, ça n'empêche pas non plus de se gaufrer, hein, parce qu'on a vu des choses des fois toujours un petit peu extraordinaires. Mais voilà, le but n'est pas ici d'agiter nos passions tristes. Et pourtant, je pense que vous l'aurez noté, le ton de cette magistrale vidéo, c'est une vidéo à la base, est plutôt alarmiste, hein, pour pas dire autre chose. Hein, mais je pense que c'est surtout ça qu'il faut noter. Je pense que c'est vraiment l'un des plus gros points qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, tous ces problèmes, ce problème climatique, hein, à plus large échelle d'ailleurs, est un problème qui est vraiment extrêmement préoccupant, parce que si c'est des thématiques qui ne sont pas reprises par les trois pimpins du coin, que j'ai presque envie d'ailleurs, c'est que quand même, il y aurait des choses à en dire, et la vidéo d'ailleurs nous rappelle qu'il y a énormément de choses à faire, sauf que pour l'instant, pas grand chose est fait. Et je pense d'ailleurs que je vais vous faire gagner du temps un tout petit peu, hein, je vais aller un peu plus en profondeur derrière après, mais je vais déjà donner à peu près la conclusion que moi je pense de toute cette histoire. C'est-à-dire que technologiquement, ce mix énergétique peut être atteignable. Je ne pense pas que ce soit un gros problème là-dessus. En travaillant sur de nombreux curseurs, donc le don déjà une certaine forme de sobriété, hein, comme ce mot intelligent qui absolument ne veut pas dire grand-chose en fait au final, je trouve. De toute façon, la façon dont il est utilisé. Mais voilà, on a un certain nombre de leviers qui sont atteignables pour en arriver là. Le problème, c'est qu'en termes de durée de temps, je pense que c'est totalement... Enfin, à peu près, si c'est possible, encore en termes de durée de temps, mais c'est incommensurable, quoi. C'est pas possible. Moi, je trouve que c'est, techniquement, c'est pas... Enfin, si techniquement, oui, c'est possible, mais je pense qu'en termes de durée de temps, c'est impossible. Alors, on en arrive à une catastrophe, c'est que les peuples vont se soulever, il n'y a pas d'autre chose, parce qu'en fait, il est là, le cœur du problème. C'est que pour moi, tout ceci est possible, mais le problème, c'est qu'on a déjà le couteau sous la gorge. Je pense même déjà qu'il est en train de sacrément nous taillader, le couteau d'ailleurs. Et c'est, je pense, là, le cœur du problème. Et encore, on prend... Ça aussi, c'est... J'y reviendrai à posteriori dans d'autres vidéos, même si je vais un petit peu l'aborder un petit peu. Le problème, c'est qu'ici, on prend le seul cas du problème, que le problème des énergies fossiles, enfin, des énergies fossiles, plutôt du CO2, émis par les énergies fossiles. Sauf que, par exemple, si je vous dis qu'on pouvait créer un extracteur de CO2, on va dire, oui, mais c'est formidable, c'est super, c'est génial. Mais cet extracteur de CO2 demanderait, par exemple, plus de lithium que ce que la Terre ne peut posséder. Ah, bon, ben c'est bien, c'est joli. Ben, il est là aussi l'autre cœur du problème, c'est que on vit déjà dans un monde qui est fini, hein, avec des gens pas finis, certes, mais avec des gens, le monde est fini. Et on demande à faire quelque chose, donc voilà, à éliminer le CO2, qui là c'est la priorité des priorités. Mais le problème, c'est que si on continue tout de même à utiliser les ressources naturelles comme on le fait aujourd'hui, déjà pour certaines, on est déjà sacrément coincé, par exemple sur le cuivre, le cuivre, on en a à peu près pour peut-être 50 ans, je crois, de ce que je me rappelle à peu près. Ça va couiner sévère. Ça va couiner sévère. Et le problème, c'est que on arrive encore une fois dans les mêmes types de catégories, c'est-à-dire que quand on fait des alliages avec des métaux, hein, pour ceux qui ne le savent pas, ben forcément on mélange différents types de métaux et on obtient autre chose au final. Le problème, c'est que si par exemple un jour on trouve un alliage, bon, c'est quand même un petit peu compliqué, mais si on trouve un autre alliage formidable qui permettrait de faire je ne sais quoi, on fait comment ? Parce qu'une fois que ça a été mélangé, alors certes on peut les séparer pour le recycler, mais ça demande des quantités d'énergie qui sont absolument, c'est même plus colossal, là, c'est abyssal. C'est quasiment, à part trouver des technologies de rupture, mais si on les trouve d'ailleurs, voilà. C'est absolument incommensurable. Et c'est d'ailleurs pour cela que je rejette le mot crise, en fait, parce que c'est comme si c'était vraiment juste épisodique, en fait. On est vraiment devant quelque chose qui est absolument colossal, qui demande un changement de cap. C'est pas ce mot, changement de cap. C'est vraiment, faut tout revoir, en fait, tout simplement. Faut tout revoir. Et d'après moi, je pense que c'est dans une certaine forme d'immédiateté qui devrait être... pour certaines, 10 ans, c'est long. Oui, ça fait beaucoup de trimestres à la retraite, à la rigueur. Mais c'est demain, hein, grosso modo. Faut pas se leurrer. C'était peut-être même hier, d'ailleurs, si je voudrais être un peu plus ironique. Mais en fait, comme on se retrouve avec un problème qui est excessivement, qui est global. Tout simplement, je vais vous dire excessivement global. Ça veut absolument rien dire. C'est un problème qui est global et qui est le mot un peu à la mode, un peu systémique. Eh bien, en fait, on a plusieurs strates de la société qui rentrent en collision. Par exemple, si du jour au lendemain, on dit aux actionnaires, qu'on dit aux fonds de retraite américains, comme ça, je sais qu'ils aiment bien, on leur dit non, mais aujourd'hui, on ne vous fait plus de dividendes, parce que, vous comprenez, faut qu'on fasse de la R&D, hein, pour développer des technologies de rupture verte, hein, comme on dit. Ce qui est d'ailleurs une belle hypocrisie, parce que mettre de l'argent, on croit toujours qu'en mettant de l'argent quelque part on résout un problème, alors que justement on fait de la recherche. Donc à partir du moment si on donne de l'argent pour que quelqu'un mange, à la rigueur ça peut probablement l'aider, mais si on lui donne de l'argent alors qu'il n'y a rien à bouffer du tout, je pense que ça va pas l'aider beaucoup. Donc ces braves petits actionnaires, ils vont couiner parce qu'ils pourront plus manger de truffes à Noël, même au mois d'août, c'est pas grave. Mais du coup ils vont couiner, ils vont pas être contents. Et puis, du coup, les retraités américains, ils vont pas être contents, parce qu'ils n'auront pas leur petit pécule de retraite, parce que, bah, tu comprends, il y a de plus en plus de retraités, tout coûte cher, puis de toute façon, on vit bien, voilà, tous les pauvres, je vous cite tous les poncifs néolibéraux. Alors, ça va couiner. Après, si on dit aux gens aussi, bah, aujourd'hui, pour que les gens ne carbonent plus, c'était, d'ailleurs, je vais reprendre certaines thématiques, hein, un petit peu la balle au bon, selon ma pensée qui divague. Mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur les articles que j'ai mis en article, hein, c'est pas bien de répéter, mais c'est pas grave, qui suivent ce podcast. Vous pouvez en mettre d'ailleurs, il y a d'autres vidéos de Xerfi qui parlent par exemple de la voiture électrique, qui parlent de l'autre, bref, etc. Je reprends où j'en étais avec Courrier International qui avait traduit un article allemand où on nous disait si le carburant, enfin l'essence est de plus en plus cher, eh bien, tant mieux, ça évitera de polluer. Sauf que bah, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, dans un monde où tout le monde est un tout petit peu. Comment le dire poliment, un petit peu endetté, hein, c'est-à-dire qu'il faut forcément de l'argent pour s'acheter à manger, hein, déjà primaire, de façon primaire, le même pour se chauffer, hein, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission. Donc si on dit aux gens, bah, écoutez, on va vous mettre le carburant à 20 000 dollars, je dis n'importe quoi, le litre, hein, moins comme ça les gens ils pollueront plus. Oui, les gens ils pollueront plus, mais les gens ils pourront plus aller travailler, ou alors au pire, comme ils sont à 45 minutes en voiture du travail, ils iront en vélo, c'est pas bien grave, ça leur fera plus sur l'autoroute à 130 comme ça, moi ils y seront pas, c'est pas bien grave, de toute façon je crois qu'ils peuvent même pas la prendre en vélo. Mais voilà, donc on en arrive à un problème qui en fait qui est excessivement complexe, en fait, il va falloir faire des sacrifices, et c'est peut-être ça le problème. Et le problème c'est où c'est qu'on va faire des sacrifices. Alors moi je sais que déjà je serais plus pour qu'on fasse des sacrifices chez nos amis les actionnaires, mais au bout d'un moment c'est, je dis pas que c'est un peu limite comme idée, parce que c'est non pas que je les aime bien, c'est pas ça le problème, c'est qu'en fait ça fait un petit peu que reporter le problème, en fait, simplement parce que en fait au final, comme je les ai dit, voilà, il y a le problème du CO2, mais il y a le problème à la fois des ressources en matière première. Si par exemple ce qu'on use en 10 ans on l'use en 20 ans, je pense que vous avez à peu près compris l'idée, ça sert un petit peu à rien, quoi. C'est pissenlit violon, quoi. Et je pense que c'est ça le problème. Encore avec le CO2, je pense peut-être qu'on peut faire quelque chose. Mais au bout d'un moment, si c'est pour faire des panneaux photovoltaïques partout et que dans 40 ans, on se rend compte que putain, on n'a plus le sable de la bonne qualité pour faire ceci ou cela, et on va faire comment? Parce que c'est là le problème, en fait. Il a le gros nœud du problème, c'est qu'en fait, on est vraiment arrivé à la limite de tout, hein, à la limite du système, tout simplement. Et d'ailleurs, si je suis très peu optimiste, on va parler du CO2, hein, je vais essayer de me rester concentré là-dessus, c'est parce que j'ai appris alors c'est un paradoxe, un effet, je pense plutôt que c'est plutôt un paradoxe qu'un effet, d'ailleurs. C'est le paradoxe de Givens. Alors, monsieur Givens, alors c'est William Stanley Givens. Il avait fait une étude pour, The Coil Question, c'était en 1865, donc c'est pas d'hier, où en fait, ces pauvres industriels, ils voyaient que, oh, mais le chauffage, il marche mieux, hein, quand on y met un peu moins de charbon, maintenant, c'est triste, oh là là, on pleure, que nos bénéfices vont fondre, qu'allons-nous devenir, on va mourir, on ne pourra plus jamais rembourser, on pourra plus jamais rembourser la dette, c'est triste. Eh bien, en fait, il s'est lancé dans une étude, et assez étonnamment, il y avait une augmentation de la consommation. Bon, c'est un peu paradoxal dit comme ça, mais en fait, comme les gens, à titre individuel, ils consommaient moins, en fait, la technologie était de suite plus accessible à un plus grand nombre. Et les gens avaient même tendance à l'utiliser un petit peu plus que quand c'était plus cher. Et bah, forcément, la base augmentait, et du coup, on avait une augmentation du volume global. Et ce paradoxe, d'ailleurs, moi, je l'avais déjà un petit peu expérimenté, je l'avais déjà assez fortement remarqué, sans pouvoir y mettre un nom, d'ailleurs, et j'avais vu, et je pense que d'autres gens en avaient déjà à peu près parlé, sans y mettre un corollaire dessus. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on a... Si vous avez, or je pense que vous en avez une, probablement, une belle voiture, hein, un beau promène-couillon plutôt, et bien si vous vous rendez compte, c'est à peu près ce qui s'est passé avec la voiture. Grosso modo, on est arrivé à réduire la taille des moteurs à peu près, ils sont quand même un petit peu augmentés en termes de volume parce qu'il y avait d'autres problématiques comme le NOx, tout ça, mais bon, ça, tout ceci est une autre histoire. Mais on va dire qu'on est quand même arrivé à gagner beaucoup de chevaux, hein, on est arrivé à faire de l'injection... à très haute pression pour les diesels, on a maintenant des ajustements qui sont excessivement propres, donc on a quand même un rendement qui a évolué par rapport aux machines du début du siècle, qui était, au début du 20e plutôt, début 20e, qui était, ça sortait de deux chevaux, c'était deux vieux bousins de merde, tout tremblait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, on en a fait des voitures ouf. Qui sont un petit peu plus sécurisés. C'est-à-dire que, fut un temps, comme le disait mon père, une voiture, quand elle avait un accident, elle faisait 150 tonneaux. Ça allait assez vite, mais bon, bref, comme c'était... Généralement, c'était de l'acier assez dur, je suis pas sûr qu'elle faisait 150 tonneaux. Mais, après, la voiture pouvait repartir. On avait juste à rebosseler un peu, à la rigueur, à changer le pare-brise, et surtout à changer le conducteur. Et maintenant, les voitures se sont adaptées tout de même à ça. Et maintenant qu'on a un accident, quand même, les voitures sont un peu plus flex, que ce soit d'ailleurs même pour le conducteur que pour les gens à l'extérieur, sauf bien évidemment si tu bombardes. Tout ceci est une autre histoire. Sauf que, qu'est-ce qu'on en a fait? On est passé de là, de chevaux à peu près, hein, on est passé au SUV. Hein, vous savez, cette fameuse voiture où on est assis haut dedans, j'ai l'air en sécurité, comme disent les gens quand ils sont dedans dans leur grosse bagnole de merde, grosse bagnole de plouc, pardon, devrais je dire, leur promène au couillon. Ils disent, oui, mais moi, dedans, j'y suis bien, je vois bien la route et je suis sécurisé. Voilà. Donc, en fait, on est passé à des voitures qui faisaient autour d'une tonne. Hein, et maintenant, on est passé à des voitures qui font deux grosses tonnes à peu près. Donc, du SUV qui est un pseudo 4x4 de merde. Donc, et où les gens, en plus, ils ne savent pas rouler avec, hein, tout simplement. Parce que les gens pensent qu'ils sont là qu'on rallye, mais en fait, ils feraient un rallye, au premier virage, ils seraient déjà dans le fossé. Et d'autant plus que c'est des pseudo 4x4, parce qu'en fait, les gens, déjà d'une, ils savent pas se garer avec. C'est-à-dire qu'on va pas l'abîmer, on va monter le trottoir. Ah, c'est embêtant. C'est pas vrai des vrais 4x4 aussi, parce que c'est souvent deux roues motrices. Ça a juste la gueule, mais c'est absolument rien. C'est juste qu'on est assez plus haut et qu'on est plus sécurisé en tant que tel. C'est juste de la grosse bagnole. Et donc voilà, en fait, ce qu'on a gagné en termes d'économie d'essence, hein, parce que je vous rappelle, fut un temps, il y avait des moteurs qui faisaient 25 litres au 100, hein. Quand on prenait certaines vieilles Ford, les muscle cars, tout ça, qui avaient déjà des gros moteurs, mais c'était quand même des moteurs un peu rudes, hein, c'est-à-dire que c'était des moteurs qu'il fallait monter dans les tours pour que ce soit agréable, hein, donc c'était déjà, quand on était à petite vitesse, c'était rarement fun, même si c'était des grosses cylindrées, ça sautait tout de même un petit peu moins, bon, bref. En tout cas, l'idée est là, c'est-à-dire qu'on a quand même économisé là-dessus, ça c'est indéniable. On a même réussi à faire des hybrides et tout, même des moteurs électriques, hein, c'est formidable. Sauf que, en fait, au final, les gens ont acheté plus de voitures. Maintenant, les gens, ils ont deux voitures que fut un temps. Quand on en avait une, on était riches. Et forcément, tout ceci, ça s'est ressenti. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a cette espèce d'effet, cet effet Jevons, c'est presque un effet rebond quelque part. Même si c'est un peu... On peut le traduire de façon un peu différente. Et d'ailleurs, maintenant, par exemple, je l'ai cité à l'instant, mais nous avons la fameuse voiture électrique. Alors déjà, elle est venue remplacer la voiture diesel qui était censée être plus écologique et meilleure pour la santé. Fut un temps Peugeot sous Valéry Giscard d'Estaing, qui lui-même était déjà un petit peu pressé par le stock de diesel, parce que quand on fait du carburant, il y a une certaine... En fait, quand on fait du carburant, généralement quand on raffine du pétrole, en fait, il y a quand même une... Ça produit toujours une quantité de diesel. On peut pas faire autrement. Donc bon, vu qu'on avait ça sur les bras, on s'était dit, on va faire des voitures diesel, plutôt faire des tracteurs diesel, parce que les gens ils vont pas rouler un tracteur. Non, c'est pour ça que je rigole souvent des moteurs diesel, parce que je dis que c'est des moteurs à tracteur. On s'est lancé là-dessus en disant, regardez, c'est économique, c'est écolo, c'est banal, c'est couffin. Tout ça pour t'entendre dire, il y a à peu près 10 ans, hein, 10-15 ans, pour t'entendre dire, oui, mais en fait, ça pollue, ça tue. Ah, et qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben maintenant, on va faire des voitures électriques. Ah, et l'électricité, elle fait comment? Ah, elle est faite avec du nucléaire. Ah, mais le nucléaire, c'est pas beau, ça. Si un jour, ça nous pète à la gueule, on va mourir. Ah, ben alors, on le fait comment? On va le faire avec des... Avec du photovoltaïque, avec de l'hydraulique, avec de l'éolienne. Ah, mais quand il n'y a pas de flotte, bon, c'est quand même plus compliqué. Mais quand il n'y a plus de soleil, ah, quand il n'y a plus de vent, ah, on fait comment? Ah, je sais pas. Du coup, on va faire avec les centrales, on va pas faire les centrales au gaz. Ah ouais, mais le problème c'est que le gaz, il vient de Russie, ouh, c'est pas terrible, ça va plus abuser, c'est une énergie fossile. Ah, du coup, on va faire avec du charbon. Ah oui, mais le charbon, c'est pas ce qui produit le plus de CO2. Ah, je sais pas. Bon. En fait, voilà. En fait, grosso modo, on en est là. Je pense que c'est pour ça que cette mixité énergétique, elle est quasiment inatteignable, parce que le problème, c'est que si on veut électrifier le marché de la voiture électrique, déjà, la voiture électrique, il faut beaucoup plus de CO2 pour l'instant, hein, bien évidemment, je parle à l'heure actuelle. Il faut à peu près le double de production de CO2 pour faire une voiture électrique, par rapport essentiellement à cause de la batterie, dont on ne sait pas d'ailleurs à quelle fréquence il faudra remplacer, parce que une batterie, ça a une certaine durée de vie aussi, quoi. Donc, déjà, il faut le double, c'est-à-dire que la voiture, il faut qu'elle ait roulé pour devenir plus écolo en tant que telle que la voiture thermique. Sauf que derrière, ça dépend aussi de... Et ce délai de kilométrage, pour que la voiture, elle soit plus rentable en fait en termes de CO2, en fait ça dépend aussi du mix énergétique du pays dans lequel on vit. Par exemple, si on vit en Pologne avec 62% d'électricité qui est fait à base de charbon, bon, la voiture électrique, c'est pas terrible. Alors c'est peut-être quelque part dans l'idée, il faudrait faire, je sais pas, 300 000 bornes pour que la voiture vaille le coup, mais la voiture elle tiendra jamais ça. Moi j'ai jamais entendu des batteries de voiture électrique qui tenaient 300 000 km, enfin 300 000 km, pas une seule charge, hein, bien évidemment, hein. En termes de durée de vie, quoi. C'est incommensurable. Je crois que j'avais lu, en plus, même dans des pays avancés, avec un mix comme la France, ça représentait genre 80 000 ou 140 000 km, quoi. La voiture, faut la rincer, quoi. Alors, tu en vis loin, à la rigueur, et qu'on fait tous les jours, 80 ou 120 km par jour. Il y en a qui les font, hein, pour aller bosser, hein, parce que, vous comprenez, il va falloir aller chercher... l'immobilier en ville coûte très cher et qu'on a quand même voulu avoir un fucking pavillon, et on allait faire un pavillon loin, sauf que ça coûte aussi de l'énergie, ça coûte aussi de l'argent de le faire, ce pavillon. En fait, tout ça, je vous le dis parce que vous verrez, c'est dans le résumé, ça parle aussi du rêve pavillonnaire, qui est un peu une catastrophe, hein, on va pas se mentir. Surtout qu'en plus on parle pas de béton. Si, ça parle un petit peu de bétonisation des sols aussi, c'est remarquable. Et donc en fait, faut faire 140 000 km sur une voiture électrique pour qu'elle devienne à peu près rentable, quoi. Je dis pas que c'est incommensurable, mais c'est pas peanuts, quoi. C'est pas peanuts du tout, quoi. Et ça, ce type de voiture, on incite les gens à en avoir de plus en plus, donc forcément, il faut de plus en plus électrifier les quartiers, de mettre des bornes partout, mettre des bornes qui soient suffisamment achalandées aussi, parce que c'est pour recharger la voiture avec 1 watt-heure, donc ça va pas aller très loin, parce qu'il faut quand même faut du jus, hein. C'est du triphasé généralement qu'il faut pour recharger ces bagnoles-là, parce que moi je sais qu'au travail, la boîte d'à côté a fait construire une recharge pour voiture électrique. Quand on touche le câble, oui, on sent que dedans c'est pas 3 joules qui y passent, quoi. C'est pas là pour faire joli, quoi. Donc je te dis, t'as pas intérêt à aller lécher le câble. Là, je pense que t'auras des bons souvenirs. Voilà, c'est pas peanuts. C'est pas peanuts, ça, pour faire ça avec de, quoi ça s'appelle, de l'éolien ou tout ça, faut encore pareil, encore une fois, faut retransformer le courant, parce que ça qui est pratique avec les turbines chez nos amis de chez du nucléaire, malheureusement, c'est que ça arrive à sortir des quantités d'énergie qui sont quand même assez modulables, assez élevées et assez modulables, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on en a des lignes très haute tension, pour éviter d'avoir trop d'effets, justement, je crois que c'est l'effet Joule d'ailleurs, je crois. Qu'on transporte le courant sur des voltages très élevés plutôt que sur une tension plutôt élevée, plutôt qu'un ampérage élevé. Et donc voilà, c'est toute une grosse problématique qu'il y a là. Parce que le problème, moi je veux bien acheter une voiture électrique, moi c'est pas... Le problème déjà d'une, j'ai pas les sous, j'ai absolument pas l'argent de pouvoir m'acheter ce type de voiture, je n'ai pas 30 000 euros comme ça là sur moi, je ne les ai pas, je ne vais pas m'endetter en plus pendant des milliards d'années pour, encore une fois, parce que le problème c'est ça, si je m'endette pour ça, après il faut s'endetter pour le fameux rêve pavillonnaire, il faut s'endetter pour tout maintenant, parce que de toute façon, aujourd'hui si tu ne gagnes plus des 100 et des 1000, tu, c'est pour vivre, je ne dis pas que c'est compliqué, mais ça devient excessivement pénible. Et donc moi je veux bien avoir une voiture électrique, c'est pas le problème, sauf qu'après, déjà de chez moi, je sais même pas comment je peux la recharger, parce que j'ai même pas accès à la route, donc je peux même pas la mettre devant chez moi, donc si elle est devant chez moi à peu près, il faut que je marche un tout petit peu, donc je peux pas tirer un câble de 200 mètres, quoi, ça marche, oh, je pense qu'il y aura une sacrée perte quand même, ouh. Et en vrai, il est là tout le problème. Et les gens qui sont dans les immeubles, bon, on fait comment? Parce qu'il y a plus de... Généralement, il y a plus... On va installer une... On installe quoi devant les immeubles? On installe aussi, pareil, des bornes partout, là. On met du cuivre partout, encore une fois, aussi, pour que les gens ils puissent recharger leur voiture facilement. Ou on essaie de faire de la recharge rapide, genre, ça te prend une demi-heure, mais... Même si ça te prend que demi-heure, il faut que tu ailles à l'endroit où tu es, tu passes demi-heure. Alors que quand tu fais un plein, si t'en as pour 10 minutes, c'est le grand maximum, quoi. Par exemple, voilà, mais ça c'est que des aspects pratiques. Après, je pense qu'il, de toute façon, il faudra revoir nos modes de vie. On y coupera pas. Mais le problème, c'est que tout ça mis bout à bout, les gens, ils veulent pas. Au moins, il y a un article du Courrier International aux États-Unis. Pardon, c'est un article américain où ils sont allés dans une ville française. Et c'était, je crois, une des villes où il y avait qui était dans les prémices du mouvement des Gilets jaunes. Et les mecs, ils disaient, mais c'est tout ce que je voulais, le mec il dit la voiture électrique, mais moi je veux bien, mais il suffit je sais pas combien de kilomètres par jour pour aller travailler en gagnant un peu, je crois qu'il allait travailler dans un entrepôt Amazon en plus, un truc comme ça. Moi je peux pas. Et moi pour moi cette transition et ce respect écologique, bon, ça me parle pas, ça me fait rigoler même, il disait. Bah voilà, on en est là, quoi. En fait, faut faire bouger une masse de gens et leur faire penser à autre chose, parce que le problème, c'est encore une fois, c'est tout un système, en fait, qui est mis en place. C'est le système de la consommation, de la surconsommation, surtout. Même déjà, la consommation raisonnable, ça me fait gaulerie. J'avais lu un article qui parlait de quelle sobriété faut-il atteindre. Celui-là aussi, je vous recommande chaudement d'aller le lire. Vous savez que je lis cette petite phrase qui m'a fait mourir de rire à la fin, où ils nous mettent « Pour cette étude, les chercheurs soulignent toutefois que la sobriété proposée, qui repose sur des principes d'égalité et de suffisance, est incompatible avec les propositions courantes de croissance verte, consumérisme vert et, bien évidemment, de croissance économique infinie. » Et cette collision de différents types de sociétés, elle est beaucoup plus prégnante que ce qu'on pourrait le croire. Par exemple, là, ils commencent à réfléchir sur la fameuse ligne à grande vitesse pour le sud-ouest. Hein. C'est l'équipe censée faire Bordeaux-Toulouse. Sauf qu'en fait, il faudrait tout péter, il faudrait y consacrer des milliards pour gagner à peu près... des fois, j'ai lu 5 minutes, je me suis dit pas ça, ou 2 heures à peu près sur le trajet. Bon, voilà, grosso modo, quoi. Mais en fait, il faudrait tout péter pour en arriver là, il faudrait encore une fois utiliser énormément de... Parce que c'est pareil, le train consomme peu, mais bon, s'il faut faire des kilomètres et des kilomètres de, comme ça s'appelle, de voies pour que le train chemine, tout simplement, c'est pas possible, quoi. Enfin si, c'est possible, mais c'est pas quelque chose d'engageable, en fait. Et même après, pour aller plus loin, par exemple, même pour en parler encore une fois du train, parce que le train, si on se lance dans des travaux comme ça, c'est assez long. À l'histoire de l'humanité, c'est vrai que c'est finalement peut-être moderne, c'est assez court, en fait, mais c'est un battement de cils, mais ça n'a rien à voir. Si on se dit, tiens, par exemple, maintenant, on va mettre comme le mix est inatteignable par d'autres voies, parce que c'est possible, mais bon, voilà, je vais prendre d'autres trucs, on va dire, on veut de l'énergie intermittente, pas intermittente, mais continue, hein, avec, parce que la centrale nucléaire, elle s'arrête pas la nuit ou elle s'arrête pas quand il n'y a pas de vent. Et après, on pourrait faire des nouveaux EPR2 partout, sauf que ben, pour l'instant, on est encore en phase d'étude et pour l'instant, on n'a rien lancé. Pour l'instant, voilà, donc forcément, ben, il y a un délai incompressible de on va pas faire n'importe quoi, déjà qu'on ne se gêne pas pour le faire. Donc forcément, là, ben, on est presque bloqué un petit peu. Parce qu'il est là, le gros nœud du problème, c'est qu'en fait, ben, il faut du temps quand même pour faire les choses. Sauf qu'on s'est engagé sur une voie, on est déjà dans le toboggan, hein, et je pense qu'on est bientôt à deux doigts de faire la sortie de route. Hein. Mais on en est là. C'est malheureux à dire, mais on en est là. Moi maintenant, pour être dans un cas, alors vraiment là, cette fois-ci, je vais vraiment rentrer dans mon... c'est pas forcément une analyse de ce que j'ai lu ou ce que j'aurais pu en sortir, c'est vraiment ce que j'en pense. C'est-à-dire que moi, là, j'en pense qu'on est vraiment arrivé au bout d'un système. Il est rincé. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer encore, parce que je ne veux pas être, j'ai jamais eu l'ambition d'être grand prophète, parce que d'autant plus que qu'il y a certaines contrariétés comme le Covid-19 qui peuvent apparaître, comme des crises économiques aussi qui peuvent apparaître par-ci par-là, qui sont d'ailleurs un petit peu pareil, un petit peu systémiques, mais bon voilà, qui pourraient venir plus ou moins arrêter les trucs. Donc moi je vais pas me lancer en venant vous dire en 2025 ça va claquer, en 2030 1er janvier, clac, ça va claquer. Donc, je ne pense pas ça du tout. Mais par contre, oui, je pense qu'on est quand même arrivé au bout d'un système. Parce que je vois bien que les gens se préoccupent, pas forcément de plus en plus d'écologie, mais les gens, certains du moins, se posent de plus en plus de questions dans le monde dans lequel on vit, qui est essentiellement basé sur la société de consommation, que je jaillis de plus en plus, d'ailleurs, cette société de consommation, parce que c'est ça aussi. Alors, c'est avec son corollaire libéral et néolibéral, de tout le monde est libre, donc tout le monde peut consommer, parce que c'est plutôt que les gens, quand ils sont libres, ils ont plus de préoccupations à devoir aller consommer, bon. Bon, je pense que je ne vais pas me lancer là-dedans, mais ça pourrait durer très longtemps. Je pense que je ne serai pas très raccord, mais il faut que je lise un petit peu plus là-dessus, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à en dire. Mais je ne pense pas que les gens, en fait, ils aient envie que les choses changent. Parce qu'en fait, le problème avec le changement climatique, c'est qu'il arrive extrêmement rapidement à l'échelle humaine, faut pas se leurrer. Mais en fait, au quotidien, on ne le voit pas vraiment. Il n'est pas là à venir nous taper à la porte, à venir nous faire chier, il n'est pas là. Donc forcément, les gens, mais qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils utilisent le fameux poncif néolibéral ou libéral de « Mais, on vit bien !» Ah ça, par contre, c'est la phrase que je conchis le plus. Donc, pour eux, à partir du moment où eux, ça va, ben, pour le reste de la population, ça va. Alors que, même sur le marché de l'électricité, de l'énergie, j'ai envie de dire, en tant que tel, là, en ce moment, c'est un petit peu... Alors, c'est excessivement complexe parce que les prix ont grimpé. Tout simplement, alors c'est pas par différents effets, forcément les effets, bah déjà que les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement sont plus complexes, et surtout qu'en plus, nous en tant qu'Européens, nous avons décidé de lancer la grande foire à la privatisation, qui a fait grand plaisir, par exemple, je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière au Texas, quand il avait fait froid, quand il y a eu cette magnifique vague de froid, et bien les gens ont compris qu'est-ce que c'était la libéralisation du marché de l'électricité, c'est-à-dire plus rien qui marche, bon ça encore, quand il fait moins 20... Quelque part, tu peux le comprendre, mais quand les gens ont reçu la facture de l'électricité, parce qu'en fait, ils étaient payés sans le savoir au moment, à l'instant T. Genre, si le courant valait 10 000 dollars le watt, je te dis n'importe quoi, le kilowatt plutôt, eh bien, tu étais ponctionné de 10 000 dollars le kilowattheure à l'instant T. Sauf que toi, tu ne le sais pas, parce que tu n'es pas là à regarder, c'est juste d'allumer ton pauvre chauffage pour pas te peler les couilles. Eh bien, c'est là où on en arrive, en fait, parce que... Il y a toujours ces fameux gens qui disent « Le Linky va vous fliquer. » Ah, le Linky, il va vous tuer avec ses ondes radioactives de l'espace intersidéral. Ah, mais le Linky, en fait, lui, il vous flique pas, mais lui, il sait à l'instant T combien vous consommez. C'est pas un truc au global, sur l'année, ou tu vois, où c'est un petit c'est lissé. Sur le mois, c'est non, c'est à l'instant T, il sait que t'as consommé, je sais pas, 400 watts pour allumer ton ordi, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Eh ben, si par exemple, à cet instant T, le courant il valait 10 000 dollars le kilowattheure, et ben tu seras ponctionné d'autant. Voilà, et bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à te renseigner. Et ben c'est ça en fait, avec la privatisation, on en arrivait là, ces cas de figure là où en fait on nous disait vous allez voir, la concurrence va faire baisser les tarifs, mais en fait pas du tout. Parce que le problème c'est qu'on en arrive sur des monopoles de fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je crois que j'avais déjà expliqué dans cette émission, c'est. Chez nous, pour que le courant il arrive, on n'a pas besoin d'avoir des tonnes de câbles. C'est-à-dire un câble pour EDF, un câble pour tel concurrent. Et à chaque fois que genre EDF se casse, il vient te couper le câble et puis t'as qu'à t'en faire réinstaller un. On n'en est pas là, donc c'est forcément un monopole de fait. Donc une maison, un appartement, que sais-je, est relié directement au réseau. Et sur ce réseau, par contre, on a différents fournisseurs, c'est pour ça qu'on appelle ça des fournisseurs électriques, qui ramènent l'électricité. Sauf que, vous comprenez bien, tout ça, ça coûte cher. Faire installer les câbles électriques, faire installer des transformateurs, faire monter des, qu'on appelle des parcs éoliens, des parcs photovoltaïques, faire des barrages, faire des centrales nucléaires, tout ça, ça coûte cher. Mais c'est pas terrible, du coup. Parce que le problème, c'est que la concurrence, c'est bien, c'est cool, ça fait baisser les prix, hein, qu'ils disent. Des fois, ça marche, hein, mais des fois, ça marche pas du tout. Et ben, le problème, il est là, en fait. C'est que, comme c'est des monopoles de fait, on va pas te mettre 150 câbles, on va pas monter des centrales nucléaires à droite, à gauche, parce que, tu comprends, moi, c'est moi qui l'ai produit moi-même en électricité, et je m'en fous. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, ça s'appelle... C'est pareil pour le train, d'ailleurs, c'est un monopole de fait, quoi. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, dans une ville, tu vas pas avoir 50 gares. Pour être desservi, ça sert à rien. C'est débile. Donc forcément, c'est quoi qu'on libéralise? C'est pas le réseau qu'on privatise entre guillemets. Hein. Ben, en fait, c'est les trains qu'on met dessus, tout simplement. Ben là, c'est pareil, avec l'électricité. Donc. Et comme en fait, en France, c'est pas concurrentiel en France, le problème. Parce qu'il y a EDF. Et EDF, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années 50 et 60? Eh bien, ils ont fait du nucléaire. Et du coup, on a l'électricité à pas trop cher en France. Et d'ailleurs, même comme EDF fut un temps, le prix était vraiment calculé, c'était le fameux tarif bloqué, hein, c'était calculé pour que, en fait, tout le monde retombe sur ces deux. Pour que ça coûte pas trop cher à l'utiliser aux consommateurs, mais qu'à la fois EDF s'y retrouve pour pouvoir faire des investissements, de la R&D, etc., 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 payer les salariés, tout ça, etc. C'était calculé comme ça. Sauf que maintenant, tout ça, on s'en fout. En fait, ils produisent à tellement pas cher, entre guillemets, bien évidemment, et bien on dit à EDF, faudrait relever les tarifs, comme ça les concurrents, en fait... Parce que si c'est trop bas, les concurrents, ils vont pas venir. Si vous voulez qu'ils vont pas jeter l'argent par les fenêtres, c'est pas fou. En fait, on va vous demander de relever vos tarifs. Et c'est vrai, d'ailleurs, derrière, il n'y a pas un complot. C'est juste que c'est comme ça, parce que c'est la logique mercantile de notre monde. Alors, on a dit, faut relever vos tarifs. Comme ça, vous pourrez, on pourra faire rentrer des concurrents dans la boucle pour faire baisser les prix. Voilà. Sauf que tout ça, ça a augmenté. Parce que maintenant, on les a foutus. Alors, d'autant plus que le marché européen de l'énergie a été indexé sur le prix de... C'est-à-dire que le prix de l'électricité nucléaire a été indexé sur le prix du charbon. Ou du gaz, je me rappelle plus. Ou du pétrole, je crois, je sais plus. Donc forcément, quand ça augmente, le prix de l'électricité augmente. Alors que ça n'a rien à voir chez nous en France. Nous, on fait au pétrole, en fait. Portion congrue, mais c'est ridicule, quoi. Et voilà, donc en fait, on se retrouve un peu baisé. On se retrouve avec des gens qui sont en précarité énergétique. C'est-à-dire que moi, j'avais entendu des reportages où les gens n'osaient même plus allumer une plaque électrique. C'est-à-dire qu'ils faisaient cuire leur plat au micro-ondes, directement. C'est pour ça que les gens mangeaient de la merde, d'ailleurs. Parce que la merde micro-ondable, bon, vous voyez à peu près de laquelle je parle. Parce que de toute façon, les gens n'ont pas du pognon pour s'acheter du mari, je pense. Donc, on en est vraiment... Non, mais je rigole pas, mais en fait, on en est vraiment arrivé là. Et c'est ça, en fait, le gros nœud du problème, c'est qu'il y en a différentes strates de la société qui sont rentrées en collision. Mais qui sont rentrées en collision violemment. Et pas encore assez pour qu'on puisse en tirer des enseignements. Et je pense que le temps que les gens prennent vraiment conscience de ça, parce que le problème, c'est qu'on a quand même un gros cœur de la société, alors ça va pas en s'améliorant, mais le fameux, comme je dis tout à l'heure, on vit bien. Hein, pourquoi se poser des questions? Pourquoi tu viens chier dans la colle G81? Tu serais pas un peu pisseux vinaigre par hasard? Tu arrives bien à t'acheter des bières, toi, t'arrives bien à t'acheter des jeux vidéo. Alors pourquoi tu viens chier dans la colle? Alors, pourquoi tu viens nous faire cailler? Mais en fait, le problème c'est ça. Dès qu'on on essaie de remettre en question le système, mais vraiment de façon prégnante, hein, moi je vous parle pas de la précarité énergétique dans les petits quartiers, non, j'essaie toujours de parler au global. J'essaie de faire que les choses partent vers le haut, parce que le problème c'est que des fois on essaye de faire des distinguos entre différentes catégories de la société, souvent quand c'est pas des catégories de classe d'ailleurs, généralement c'est pareil, c'est la stratégie du moins disant, mais bon bref. Ben en fait, le problème c'est que comme pour les gens, ces gens ne sont pas impactés, hein, pour utiliser ce vilain mot, et ben pour eux ça va, y a pas de problème, les gens n'ont qu'à aller travailler, plus... les gens n'ont qu'à ils ont qu'à faire plus attention. De toute façon, c'est des pauvres, ils savent pas utiliser leur argent. Hein, donc, de toute façon, voilà. Ils ont qu'à. Je trouve même plus de poncifs tellement on m'en sort, c'est poncif de merde là. Ben voilà, en fait, voilà, les gens n'ont qu'à faire. Les gens ne font pas les efforts nécessaires pour s'en sortir. Voilà, ils ont qu'à traverser la rue pour trouver du travail. Ils ont qu'à. Ils avaient qu'à faire moins de gosses. Ils avaient qu'à. Je sais pas quoi. Voilà, que les trucs de merde. Ils avaient qu'à faire des métiers plus intéressants qui rapportent plus. Hein, qui font plus de bénéfices à la fin de l'année. C'est formidable. Eh ben non. Voilà, on en est là. À utiliser ces vieux poncifs qui nous ont fait arriver là, justement. Les réutiliser jusqu'au bout du bout. Jusqu'à quand, je ne le sais pas, mais voilà. En tout cas, voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors moi, ce que je vous invite, si vous voulez vous pencher un peu plus sur la question, parce que moi, je serais quand même resté un petit peu au global, plutôt pour signaler le problème, plutôt que pour vous, comment ça s'appelle, en parler en façon chiffrée, hein, c'est que je vous invite à parcourir les articles que je vous ai mis dans l'article de cet épisode, voilà, qui vous permettront de tirer, je pense, à peu près la même conclusion que moi, parce que globalement, c'est un petit peu, c'est des sources à peu près diverses, mais qui me confortent dans l'idée de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Alors moi, j'ai dit, probablement dit avec des gros mots, donc bon, on s'est compris. Mais voilà, vous avez compris à peu près l'idée. Donc, je pense que je reviendrai un petit peu plus souvent sur cette question écologique qui a pour moi absolument excessivement mal traitée, pour essayer de, pas forcément de la vulgariser, mais essayer de vous ramener des problèmes sous les yeux qu'on n'a pas forcément conscience, parce que au final, le « on vit bien », ben, des fois, il est quand même un petit peu vrai, hein, parce que si on ne se pose pas des fois la question et qu'on n'est pas très au fait, ben, on ne tombe pas dessus, tout simplement. On ne se pose pas la question, parce que de toute façon, se poser la question ne rapporte que des emmerdements déjà un petit peu moraux, donc voilà, c'est pas forcément la bonne idée. Mais voilà, l'idée est là, c'est j'essaie de vous proposer quelque chose de qualité pour que vous puissiez vous donner un avis. Donc écoutez, voilà, c'était toujours Gunnar 81 qui vous remercie pour votre écoute et qui vous dit à très bientôt dans Flux URSS. Ciao, ciao. USSR.